Actu SF, les podcasts.
Bon, bien, merci d'être aussi nombreux avec nous pour cette nouvelle table ronde sur la machine biologique. Donc, ou les machines biologiques, parce que je pense que c'est un terme suffisamment pluriel pour qu'on puisse s'amuser avec tous les trois. Donc, je vais vous présenter les invités de ce panel aujourd'hui. Ici, Marc-André Sellos, qui est professeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc, un biologiste lui-même, spécialiste des microbes, des champignons, d'une façon générale, de toutes les petites machines qui sont notre corps. Il nous en dira plus dans un instant. À sa gauche, Sylvie Lenné, qui a une double casquette, qui est à la fois une de nos nouvellistes très sensibles, l'auteur d'un très beau recueil qui s'appelle une anthologie de toutes ces nouvelles qui s'appelle Fidèle à son pas balancé, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps chez Actu SF et que je vous recommande vivement, et qui par ailleurs est aussi dans le civil, une universitaire, spécialiste d'intelligence artificielle, professeur d'infocom. À l'Université de Lyon. Et à sa gauche encore, Claude Ecken, qui est un des... qu'on ne présente plus dans la science-fiction française, qui a écrit de nombreux romans, de nombreuses nouvelles depuis la fin des années 70, quasiment, qui a été un pionnier de toutes sortes de sous-disciplines. Je crois que le premier roman de quasi-cyberpunk que j'ai pu lire était déjà de Claude Ecken, bien avant Mel Gibson. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais, puisqu'on a la chance d'avoir un biologiste parmi nous, commencer par te demander, Marc-André, quel sens tu donnes à cette métaphore de la machine biologique ? Est-ce que ça a un sens de parler de machine quand on parle de vie ? Est-ce que cette métaphore de la machine qui suggère quelque chose de programmé, qui suggère quelque chose de penser avec une direction ou des directions bien déterminées pour aboutir à une action particulière, a un sens ou est-ce que c'est une projection absurde qu'on cherche à plaquer sur quelque chose de beaucoup plus compliqué ?
Je ne sais pas si on a besoin du micro ou pas.
Je pense que la salle est grande.
Ça marche dans aucun sens, en fait. Ok, désolé. Alors, donc, oui, la machine et le vivant. C'est un truc un peu compliqué parce que, au début, ça commence peut-être plutôt dans l'autre sens. Hein. C'est le moment où on s'imagine que les animaux, les êtres vivants en général, sont des machines. Hein. C'est le programme de Descartes, l'explication de l'animal comme une machine, qui va nous conduire d'ailleurs dans des sociétés modernes à avoir une attitude vis-à-vis de l'animal qui n'est pas toujours respectueuse, en tout cas qui ne le prend que comme un objet et pas comme un sujet. Donc historiquement, le lien, il se fait dans ce sens-là. Aujourd'hui, bizarrement, la situation est complètement renversée. On voudrait que la machine mime le biologique. C'est vraiment l'inverse. Hein. Je pense que la machine, c'est un fantasme humain. Donc on voit très bien ce que c'est, parce qu'on envisage ce qu'on voudrait que ce soit. Et le biologique, c'est ce qu'on a de la peine à entrevoir. Et c'est pour ça que je pense que penser que du biologique viendra la machine, c'est très délicat, parce que la machine procède d'elle-même. Et si je regarde autour de moi, finalement, quel est le lien qui s'opère, finalement, quelle est la machine la plus intégrée à mon corps ? Elle ne réalise aucune fonction biologique qu'on connaissait avant. Donc j'ai l'impression que le lien entre la machine et le biologique, c'est largement quelque chose de mythifié, que c'est inspirant éventuellement, mais que c'est deux objets irréductibles. Et une fois de plus, hein, les machines qui sont les plus liées au biologique font des fonctions qu'on n'imaginait pas à partir du biologique, et que le biologique fait un tas de choses qu'on n'imagine pas à faire à des machines. Pour moi, la machine biologique, c'est un oxymoron, c'est un paradoxe complet. Ça n'a rien à voir. C'est ma posture de départ, je ne sais pas si...
Alors, c'est un peu embêtant parce que j'ai envie de répondre à peu près tout ce qu'a dit Marc-André, donc je vais être obligée de faire du tri.
Mais vas-y.
alors, que la machine et la biologie soient complètement antinomiques, oui, là, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, qu'on se soit inspiré de la biologie pour fabriquer certains types de machines, c'est vrai, mais en général, à un niveau assez macroscopique. Et je pensais, par exemple, au nouveau modèle d'ordinateur sur le principe des réseaux neuronaux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand la machine imite la biologie, elle est nettement moins bonne que la biologie. C'est une pâle imitation, c'est pas du tout au même niveau d'excellence. Et les réseaux neuronaux, par la quantité de neurones qu'on est actuellement capable de gérer, même si les processus ressemblent peut-être un peu aux processus biologiques, au sens où on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, à part ça, on a quand même des possibilités de connexion qui sont infiniment plus faibles, je crois, que même dans le cerveau d'une fourmi ou d'une mouche. Hein, je crois qu'on n'en est même pas encore à ce niveau de complexité. Donc, il y a d'autres choses sur lesquelles je voulais répondre, mais je vais peut-être d'abord passer la parole à Claude. Non,
je serais curieux de te voir poursuivre là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un problème quantitatif? Est-ce que si on se dotait d'une technologie capable d'avoir suffisamment de neurones, suffisamment de connexions, et un nombre colossal, certes, pour émuler le cerveau, est-ce que cette frontière entre la technique et la biologie s'effacerait, à ton sens ?
Alors, pour moi, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec des machines ? Je pense que si on développe des machines, c'est pour qu'elles nous obéissent sans discuter, sans réfléchir, sans nous contredire, et qu'elles soient encore plus dociles que ne pourraient l'être les esclaves qu'on a utilisés à certaines époques de l'humanité. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaierait de développer des machines qui auraient une personnalité, peut-être une ébauche de conscience, au moins au sens où il y a une conscience animale? À quoi ça pourrait bien servir? Je vois pas. Il me semble qu'on attend des machines qu'elles accomplissent des actes mécaniques et qu'elles soient d'une obéissance absolue. Donc, après, on peut toujours faire des expériences, faire des tentatives, essayer d'avoir des ordinateurs encore plus puissants, des avions qui vont encore plus vite. Mais bon, à un moment donné, tout ça n'a plus beaucoup de sens, il me semble. Enfin, je veux pas dire des choses horribles ici, mais vous avez sûrement vu, comme moi, parmi les chiffres qu'on nous a donnés récemment, que depuis 40 ans, 60% des vertébrés sauvages ont disparu de la planète Terre. Si on n'est pas capable de préserver la vie et de maintenir un substrat capable de lui permettre d'exister, quel sens ça a de développer encore plus de machines et de les faire ressembler à une vie posthume? Je trouve ça a plus beaucoup de sens.
Là où je suis un petit peu surpris, c'est que très souvent, chez les biologistes même, on parle de machinerie cellulaire. Comme quoi, donc, c'est du biologique qui accomplit un travail. Si on prend une définition de machine, elle a une certaine fonction, elle est là pour accomplir un certain travail. Or, au niveau de la cellule, il y a bien un travail qui se fait d'une façon pratiquement mécanique, si je puis dire. Enfin, du genre, c'est un processus qui se fait. Donc, on a peut-être une machine et que l'on peut aussi adapter. Enfin, je ne sais pas, on a des organismes génétiquement modifiés, des bactéries par exemple, pour fabriquer de l'insuline. Ce n'est pas leur rôle premier, mais on en a usé comme d'une machine. Donc là, on a quand même une sorte de machine biologique.
Alors, bon, le fait que les biologistes utilisent le mot de machine, c'est programmatique, c'est post-cartésien, pour le coup. Et ce sont des héritiers de Descartes. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est des occidentaux, les biologistes. Oui, la biologie, c'est quand même une science occidentale. Mais c'est largement un programme, une façon de représenter les choses. En fait, nul ne sait comment fonctionne la... C'est une soupe, quoi, aussi. Hein. Ou alors un gel, enfin. Il y a d'autres moyens de le décrire. Et tout ça, ce sont des représentations. De même, les réseaux neuronaux sont des représentations. En fait, quand on fonctionne les neurones, bon, on a une façon de les représenter, et après, on fait des objets qui fonctionnent de cette façon. Alors, du coup, comme la représentation, finalement, est heuristique, c'est-à-dire qu'elle permet d'aller de l'avance en termes de compréhension et d'action sur le monde, c'est vrai que ces représentations nous permettent de comprendre mieux comment marche la cellule et de moduler son fonctionnement, ou bien d'avoir des réseaux neuronaux capables d'apprendre et tout. Bon, ça, c'est vrai. Mais enfin, tout ça, c'est des représentations. Et je dis pas que, justement, le fait de voir le vivant comme une machine soit pas utile dans la compréhension du vivant et dans la création d'outils nouveaux, ça c'est certain. Mais il faut bien voir que l'un n'est pas réductible à l'autre. Pour ce qui est des propriétés des machines qui surpassent celles du biologique, je crois que le jeu d'échecs nous montre qu'il arrive que la machine surpasse le biologique. Et dans cette compétition, j'ai bien peur qu'à terme, de toute façon, on soit à plat partout, parce que l'évolution des machines, elle a même pas un siècle. La nôtre, elle a plusieurs puissances de 10 fois de plus. Pour le reste, je souscris largement.
Sylvie, tu crois?
Oui, mais c'est difficile de répondre à ça. J'espère qu'il y aura encore une humanité d'ici 2 ou 3 siècles. Non, je viens de me faire une horrible galère TGV, donc je suis de mauvaise humeur et pessimiste. Mais... j'espère que dans quelques siècles, on aura encore des arbitres pour juger qui a le mieux évolué de l'homme et de la machine, et du superordinateur et de l'être humain.
Si on parle de ce que Descartes considérait comme le propre de l'humanité, en dernière analyse, c'est la conscience. Est-ce que, en tant que spécialiste de ce genre de choses, c'est un horizon que tu vois quelques années, quelques décennies, quelques siècles? Ou est-ce qu'on n'aura jamais simplement de machines conscientes d'elles-mêmes?
Alors, je vais essayer d'avoir une approche cartésienne de ta question. Il y a deux manières d'envisager la conscience dans des machines qui évolueraient largement. Soit on a fait tout ce qu'on pouvait pour y arriver et ça a marché, soit ça arrive sans qu'on l'ait fait exprès, de manière fortuite et éventuellement dangereuse. Première hypothèse, allons-nous essayer de fabriquer des machines qui ont une conscience? J'ai quand même pas mal de collègues en intelligence artificielle, parce que moi, ça n'est mon domaine qu'à la frange, mais je ne connais absolument aucune équipe, aucun laboratoire de recherche qui travaille dans ce sens-là. D'abord, il me semble qu'ils seraient bien embêtés en se demandant par quel bout il faut attaquer la chose. Et puis, d'autre part, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vois pas à quoi ça pourrait servir. Alors, on a actuellement besoin de systèmes qui prennent des décisions mieux renseignées que les nôtres en se servant d'une énorme quantité de données hétérogènes. C'est ce qu'on appelle le big data. On a sans doute besoin d'ordinateurs les plus intelligents possibles pour traiter du big data. Mais ça, être intelligent, si c'est pris au sens traiter une énorme masse d'informations ambiguë, je vois pas pourquoi ça impliquerait une conscience. On n'a pas besoin de conscience pour ça. Alors après, est-ce que ça peut arriver fortuitement? Oui, il y a plein d'excellents romans de science-fiction qui racontent ça très très bien.
Sur le côté de l'intelligence, si on veut des machines qui soient dociles, à ce moment-là, il ne faut pas qu'elles soient intelligentes. Puisque après, en tant qu'être conscient, nous sommes capables de faire des erreurs, nous sommes capables d'hésiter, et c'est pas du tout ce qu'on attend d'une machine. Une machine qui arrivera à ce niveau-là, on n'en voudrait plus, quoi. On veut une machine, comme tu dis, docile. Esclave, à ce moment-là, c'est incompatible.
Sylvie évoquait les big data, c'était essentiellement, pour ce que j'en comprends, on lance des machines dont on ne comprend même plus vraiment comment elles fonctionnent pour analyser ces systèmes-là. Marc-André, est-ce qu'on a ce genre de choses en biologie aussi? Est-ce qu'on a des systèmes qui fonctionnent sans qu'on sache vraiment pourquoi?
Oui, parce que en termes de big data, il y a un truc tout bête, hein, c'est que quand je rencontre Gérard, je reconnais Gérard, quoi. Quand je rencontre Adeline, je reconnais Adeline, même si elle a changé de cheveux, exactement. Enfin, il n'y a pas aujourd'hui une machine qui soit capable de faire ça bien, impeccablement, et aussi efficacement que nous. Enfin, à ma connaissance. Alors, il n'y a pas, actuellement, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas demain. À un moment, il y avait des gens qui, avec un doigt véhément, expliquaient qu'on ne volerait pas, que l'humanité ne pouvait pas voler. Bon. Donc, on est bien impuissant à prédire la suite. Mais en termes de big data, le vivant, il manipule déjà des big data. Pensez à votre mémoire. Enfin, vous avez des souvenirs du goût d'un café un matin, et vous voyez très bien la vue du coin de la chambre d'hôtel où vous l'avez pris. Enfin, c'est des trucs absolument invraisemblables. C'est un fatras de... Ça, c'est de la big data.
C'est un fatras mal rangé. Hein.
Il est très mal rangé. Alors, pour le coup, en plus, des fois, quand on cherche un truc dedans, on le retrouve pas. Mais il y a... Alors... Voilà, je pense que là, on a, c'est un des endroits d'ailleurs où on a du mal à imiter le vivant, hein. C'est dans la gestion des big data. Il y a un autre truc qui me venait à l'esprit dans la discussion qu'on avait, c'est que aujourd'hui, les machines sont quand même vachement pensées comme des extensions de l'humanité. Bon, je reprends mon exemple, hein. Et elles n'ont pas cette capacité. Je pense qu'il leur manque encore un truc pour remplacer le vivant. Et je ne sais pas si, vu la façon dont elles sont faites, elles pourraient l'avoir un jour. C'est la capacité, c'est l'autopoïèse, hein, c'est la capacité de se reproduire, en fait. Or, elles sont actuellement créées comme des petits morceaux des activités qui permettent ensuite de reproduire quoi ? Bah, d'aider les vivants à vivre. Et du coup... Voyez, même si on se dit qu'un virus est capable de se répliquer, il le fait dans une enceinte qui est quand même carrément créée par l'homme et que l'homme peut supprimer, bon, quitte à se mutiler ponctuellement. Je veux dire, quand j'efface mon disque dur parce qu'il y a un virus dedans, c'est pas très agréable, mais quelque part, pour l'instant, il y a un asservissement qui résulte du fait que ce sont des choses qui se développent sur des fonctions partielles qui n'ont pas la fonction de reproduction.
Sauvegarde automatique. La sauvegarde automatique.
Oui, oui, mais... Tu vois, si tu supprimes l'ordinateur, c'est fini. Hein. Mais pour l'instant, hein, j'ai pas dit que ça se produirait pas, mais dans l'instant, il manque cette grosse propriété du vivant.
C'est peut-être pas la seule qui lui manque, hein, parce que toute créature vivante a des besoins, des envies, des pulsions, envie de se nourrir, envie d'avoir des relations sexuelles, envie de... Et le jour où nos smartphones auront des envies, des désirs et des pulsions... Ça va nous faire bizarre. Je pense qu'on peut écrire des jolies histoires avec ça. Mais ceci dit, tu disais tout à l'heure quelque chose sur lequel j'avais eu envie de réagir au moment. Tu disais nos smartphones ne remplissent aucune des fonctions que nous étions capables d'assumer jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris. Moi, mon smartphone, il fait des tas de choses que je faisais déjà ou que je faisais très mal. Par exemple, j'ai un sens de l'orientation absolument pourri. Ben, j'ai un GPS dans mon téléphone. Quand j'arrive dans un endroit où je suis complètement perdu, ce qui m'arrive souvent, il est capable de me dire, tu vas par là, tu tournes à droite et puis tu prends la deuxième à gauche. Il y a des gens qui ont ça en câblé dans le sens de l'orientation. Quand il y a des gens, ils sortent d'une station de métro, ils savent où est le nord. Moi, jamais. Mon téléphone, oui. Donc je suis bien contente qu'il remplace des fonctions cognitives qui étaient défaillantes chez moi. Mais après, la mémoire ou la recherche d'informations, c'est déjà des choses qu'on pratiquait à une certaine échelle. Donc c'est de même nature, il me semble que on a externalisé hein, ces processus. Moi, mes étudiants, leur comportement change, leur mode d'apprentissage aussi ont beaucoup changé. Je pense que c'est lié à l'environnement technologique dans lequel ils travaillent. On sort peut-être un peu du sujet, mais j'ai des trucs à raconter là-dessus.
Claude ?
Non, enfin, pour rebondir sur ce que dit Sylvie, effectivement, on a externalisé depuis longtemps. C'est l'écriture qui est la première forme d'externalisation de la mémoire. Et ensuite, l'imprimerie, qui a d'abord généré quelques problèmes parce qu'il y avait une élite qui savait lire et d'autres qui étaient illettrés. Finalement, la lecture a été donnée à tout le monde. Et puis maintenant, nous avons d'autres formes d'externalisation qui sont nos objets technologiques et qui sont donc le prolongement de nous-mêmes. C'est à peu près le même processus qui se déroule.
Marc-André, si on revient au niveau microbien, c'est-à-dire des fonctions beaucoup moins nobles d'une certaine façon que ce qu'on évoquait à l'instant, est-ce qu'on a aussi ce genre de situation où on a des systèmes tellement complexes qu'on ne comprend pas véritablement ce qu'ils font? Je crois que dans certaines situations, on peut avoir des milliards d'espèces différentes dans un bouillon de culture de telle ou telle partie de notre organisme. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut voir aussi comme des machines extrêmement complexes, ou est-ce que c'est les, le jeu du hasard et de la nécessité qui font que ça fonctionne tout seul.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, bon, en termes de complexité, le vivant pose des défis terribles. Et effectivement, la conception qu'on a maintenant du fait que les plantes ou les animaux sont accompagnés de microbes qui contribuent à leur fonctionnement, que finalement nous sommes un écosystème microbien et qu'un certain nombre de fonctions comme la digestion, le développement du système nerveux dans le jeune âge, la défense de l'organisme sont liées à des tas d'interactions de microbes entre eux, dans notre tube digestif, sur notre peau, et à non seulement des interactions entre eux, mais avec nous, vient complexifier le problème. Parce qu'avant, j'avais une approche, je disais, voilà, l'homme, je vais comprendre l'homme, puis j'avais l'homme tout seul. Et maintenant, je me retrouve avec, effectivement, entre 2 et 400 espèces, 2 et 500 espèces de microbes qui constituent l'homme, enfin, qui accompagnent l'homme et qui remplissent des fonctions. Et ça fait, si on prend 400 pour faire un chiffre rond, ça fait 400 fois 400 interactions, plus les interactions avec l'homme. Ça commence à faire un problème hyper complexe et où je vois mes collègues d'ailleurs rentrer avec des réflexes réductionnistes. Ils se disent, tiens, bah alors si effectivement, des fois, on a une dérive vers l'obésité parce qu'on n'a pas les bons microbes, on va trouver le microbe qui soigne. Ben, c'est plus simple que de se dire, on va trouver la N interaction qui fait que ça marche. Donc c'est vrai qu'on est souvent confronté au complexe et du coup, on est de plus en plus tenté de laisser des systèmes réfléchir à notre place et filtrer l'information à notre place. Moi, dans mon équipe, par exemple, on travaille sur des descriptions de communautés microbiennes, il y a plusieurs centaines d'espèces, et on laisse l'ordinateur nous dire, nous cracher les sangs les plus abondantes. Et puis là-dessus, on essaie de faire un raisonnement, mais on a beaucoup de mal avec la complexité, oui. Et là, effectivement, on a recours à la machine.
Est-ce qu'on est capable de modéliser ces choses-là aujourd'hui ?
Ben, moi, je trouve pas très bien. Pas très bien, ça viendra sans doute, mais c'est en cours de développement. Justement, actuellement, on a des approches vachement réductionnistes qui se disent, tiens, on va prendre les plus abondants, on va prendre le... C'est presque la même chose que de prendre celle dont le nom commence par un A, d'ailleurs. On essaie de réduire à ce qu'on peut manipuler. Et en fait, voilà, le vrai problème, c'est qu'on commence à approcher cette limite où un système ne peut pas se comprendre lui-même, parce que pour se comprendre lui-même, il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus complexe que ce qu'il étudie. Et en voyant la vraie nature dont nous sommes faites, on l'a dit beaucoup à propos du cerveau, ça porte un nom, ça. J'ai pas le temps de consulter mon smartphone, c'est un théorème dit de... Le théorème de...
Gödel, peut-être.
Oui, c'est ça. Et voilà, donc on atteint la limite de ce qu'on peut concevoir. Or, pour se concevoir, faut être un peu plus complexe que ce qu'on conçoit, donc on espère bien que les machines nous y aideront.
On ne sait pas vraiment raisonner systémique, hein. On sait raisonner analytique. Donc, en général, on a l'habitude d'aborder les problèmes complexes en les décomposant en problèmes plus simples. Mais ça marche pas du tout par rapport à une approche systémique. Donc, après, en gros, moi, ce que j'en connais, c'est soit on raisonne de manière procédurale et analytique, qui est très limitée, soit on raisonne boîte noire, réseaux neuronaux, système à apprentissage, en gros, l'idée, c'est que on fournit des informations en entrée, on regarde ce qui se passe. Si ce qui se passe est bien pendant la phase d'apprentissage, on dit au système, voilà, c'est un bon résultat, qu'il intègre dans son raisonnement pour la fois d'après. Mais on sait pas de quelle manière il l'intègre. C'est un processus de type boîte noire. On sait ce qu'on lui apprend, mais on sait pas comment il s'en sert. Mais le problème, c'est que c'est des processus très longs, qu'il faudrait leur fournir des quantités et des quantités d'informations pour que éventuellement ça devienne efficace, et que dans toutes les situations où le niveau de complexité est trop élevé, pour l'instant, ça donne pas grand-chose encore.
Claude, on a un discours de scientifique très très humble entre Marc-André et Sylvie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisable par un auteur de science-fiction, ou est-ce que l'auteur de science-fiction préfère les scientifiques qui savent vraiment ce qu'ils font et qui donnent des choses beaucoup plus carrées, beaucoup plus directes?
L'auteur de science-fiction va se servir de tout ça pour extrapoler et puis délirer, quitte à flirter avec l'impossible. C'est après un jeu aussi métaphorique ou philosophique. Sylvie vient de dire « pour l'instant », ce qui suppose que peut-être plus tard, les big data seront capables d'analyser des processus biologiques complets. Le problème, c'est que l'humain, il restera quand même extérieur à ça, hein. C'est une machine informatique qui fait le boulot pour comprendre comprendre du biologique, mais nous, là-dedans, on se contente de réceptionner les données, quoi. Et si elle nous ment ?
Ce qui est très embêtant, c'est que le jour où l'ordinateur sera capable d'exploiter du big data pour nous dire, voilà, ben, vous allez faire ci et ça et ça et ça, on lui dira pourquoi, et il ne pourra pas nous dire pourquoi. Il y aura plus de communication possible pour expliciter les processus de pensée. Nous, êtres humains, on est des gens qui savons manipuler du complexe et on gère du big data tout le temps, ne serait-ce qu'en venant ici et en voyant plein de têtes connues et en se rappelant de ce qui s'est passé avec l'un, avec l'autre, et lui, je lui ai fait la bise. Mais s'il faut expliciter, on y arrive encore à peu près. Nous, les auteurs, on travaille beaucoup dans le sens de l'explicitation, habillée avec des mots, des trucs un peu flous. C'est notre boulot à plein temps. Un ordinateur qui serait capable d'expliciter ses mécanismes de décision ou de raisonnement, je ne peux pas imaginer que ça existe. Donc, après, il y aura un choix à faire. Soit on délègue la capacité de décision aux machines. On est déjà en train de le faire. Moi, je trouve ça catastrophique. Quand on a accepté de déléguer à Amazon ou à Google ou à d'autres le choix de nous dire ce qu'il était intéressant de consulter sur un sujet, ce qui pouvait nous intéresser en termes d'achat, on leur a pas demandé d'expliciter pourquoi ils considéraient qu'il était intéressant d'acheter tel truc ou de consulter tel truc. Donc je trouve qu'on est mal engagé sur ce terrain. On a tout délégué, on délègue de plus en plus, sans demander quelque chose qui serait fort difficile à réaliser, c'est expliquer pourquoi l'ordinateur nous recommande ceci ou cela. Et plus le temps va passer, et plus ce sera une demande difficile à exprimer, parce que techniquement, on y arrive de moins en moins bien.
La machine n'est pas capable de poser la question. C'est nous qui posons la question pour l'instant. Il y a une nouvelle de Ted Chiang quand même qui montrait que l'informatique c'est l'avenir de la science, où l'informatique allait de plus en plus vite, faisait des découvertes de plus en plus importantes dans à peu près tous les domaines, et le scientifique humain n'était plus que quelqu'un qui essayait de comprendre ce que les intelligences artificielles avaient trouvé et n'était plus que dans un processus de... Ben, c'est un élève qui essaye d'apprendre et qui n'arrive plus à suivre les découvertes tellement les machines en sortent à toute vitesse, quoi.
Marc-André ?
Alors, il y a deux choses quand même que ça m'éveille. La première, c'est à propos de cette idée que notre pensée est toujours analytique. Et donc, tu l'effleurais dans ta dernière intervention. Quand on reconnaît l'odeur d'une rose, on ne reconnaît pas les composés élémentaires. Analytique, hein, c'est quand on...
Non, je parlais des processus mécaniques, ouais. Hein, pas biologiques.
Oui, mais justement, voilà, nous, on est capable de faire tous les jours des reconnaissances qui sont systémiques, globales. Et pas analytique. Et bizarrement, on ne sait pas appliquer ça après. Alors là, je ne sais pas si c'est un biais de l'occidentalité, pour le coup, hein, notre démarche occidentale qui réduit à l'analytique. Mais typiquement, quand on dit il va pleuvoir, c'est souvent vrai. Hein, et franchement, c'est plutôt un faisceau de preuves inconscientes. Et il n'y a pas du tout de conscience des éléments à l'analytique, des éléments qui, un par un.
C'est ce qu'on appelle l'intuition aussi.
Oui. Et ça, pour le coup, moi j'ai souvent vu, bon je les manipule pas moi, hein, mais les produits justement de gros jeux de données, j'ai souvent vu mes étudiants faire des jolis articles en intuitant une logique et ensuite en allant la chercher dans les données. Alors, et c'est là que d'ailleurs on peut se poser la question de savoir si l'imagination, enfin quelle est la place de l'imagination dans cette démarche-là, hein. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Kekulé, hein, le type qui a trouvé la structure du benzène, hein, et qui dit que ça lui est venu d'un rêve qu'il a fait dans la nuit où il a vu un serpent se mordre la queue, et là il a compris ce que pouvait être la structure de cette molécule, qui échappait jusque-là un peu à l'analyse et à la compréhension. C'est une grosse question de savoir si finalement nos grosses découvertes sont analytiques ou si elles relèvent de cette espèce de chose complètement inconsciente qui n'est pas analytique pour le coup. Bon, du coup, j'ai oublié la deuxième chose.
C'est peut-être un processus caché. Enfin, par moment, on peut se dire que l'odeur de la rose, il y a à l'intérieur de nous un processus analytique que l'on ne décode pas.
C'est très possible. Néanmoins, du point de vue de la conscience, ça veut dire qu'il y a quand même opérationnellement tous les jours des choses qui ne sont pas analytiques. Et nous ne sommes donc pas que des machines analytiques.
Est-ce qu'on a des cellules ou des microbes spécialisés dans la détection de telle ou telle molécule qui intervient dans l'odeur de la rose ?
Bah, l'odeur de la rose, elle est largement le produit de la modification par les microbes qui sont dessus des produits de la rose. Première chose. Deuxièmement, notre système olfactif, on le sait en élevant des souris en l'absence de bactéries, en les élevant sous bulles. Bon, leur système olfactif est complètement sous-développé. Donc, sans nos microbes, on ne développe pas bien notre système, parce qu'on en a plein le nez, hein, bien sûr. On ne développe pas bien notre système olfactif. Et puis, pour terminer, il y a même sur nos muqueuses des microbes qui modifient les odeurs pour les rendre plus accessibles aux récepteurs. Enfin, bon, on s'en passe sans les microbes, mais c'est une des nombreuses choses qu'on ne fait pas sans eux. En revanche, bon, je trouve qu'il y a un truc intéressant quand même, si je peux broder sur le thème qui est de se dire finalement l'homme et la machine, l'homme étendu par la machine, on s'aperçoit qu'on a une extension biologique déjà installée, qu'on n'a pas explorée encore complètement, c'est cette extension microbienne, cette capacité à héberger des microbes qui modifient nos fonctions, qui leur permettent de fonctionner bien, voire même mieux. Et je me dis que le lien de l'homme à la machine... il est peut-être moins pour demain que le lien de l'homme au microbe. Parce qu'aussi, peut-être, je pense à l'homme qui n'est pas occidental, et pour lequel c'est peut-être plus facile de changer certaines pratiques d'hygiène ou certaines pratiques alimentaires, et donc de changer la complexité microbienne embarquée, plus que qu'il ne lui est promis d'avoir un smartphone ou un portable.
Moi, j'ai une idée d'auteur de science-fiction. J'aimerais bien demander aux biologistes si elle est complètement idiote. Est-ce que ce serait possible d'imaginer que l'homme modifie sa faune microbienne, quitte à la remplacer par une faune semi-mécanique, de manière à ce qu'il soit, par exemple, capable d'absorber l'excès de carbone dans l'atmosphère ?
Il faudrait quand même le mettre quelque part après.
Oui, non, mais après, je sais pas, il se dépose en couche, il se l'arrache sur la peau. Je suis en train de raconter toute une nouvelle que je voudrais écrire, là, mais...
Non, mais alors, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir des technologies médicales basées sur des micro-robots, des trucs qui vont réparer voilà, des tumeurs ou des lésions. Et on peut se demander si, voilà, on pourrait pas faire ça avec des microbes. Enfin, on sait très bien, par exemple, que la vitesse de cicatrisation d'une plaie dépend de la concentration en staphylocoque de la peau, qui sont donc pas pathogènes, eux, hein, mais qui facilitent la cicatrisation. Et une fois de plus, une blessure infligée à une souris qui n'a pas ces trucs-là cicatrise en deux ou trois fois plus longtemps. Donc, ce que je pense, c'est que... oui, ces dispositifs embarqués biologiques, ils sont sans doute plus prometteurs. Dans le corps. À l'extérieur, c'est autre chose. Je ne pense pas qu'on fera un smartphone avec des bactéries.
Je suis tenté de donner la parole à la salle. Il
y a Je peux dire un truc ?
Bien sûr.
Il y a mon fiston qui a travaillé dans un labo à l'INSA sur un projet dans lequel ils essayaient de travailler sur des bactéries dépolluantes. Donc, il y a des projets de ce type dans certains labos. Et en dehors du corps humain. Je ne sais pas si ça marche si bien.
Oui, mais je parlais juste par rapport hors du corps humain, pour le corps humain. Par contre, oui, dans le milieu, il y a un génie microbiologique qui est en train de se développer, qui peut effectivement réparer des sols, et même d'ailleurs des sols qui n'ont pas l'air malades, mais qui sont juste des sols qui, à cause des pratiques agricoles, ont perdu leur structure ou leur capacité à retenir les fertilisants. Oui, non, mais là, il y a des acteurs, effectivement, qui sont des acteurs très puissants, mais une fois de plus, on est au début de leur utilisation. Et on risque autant de faire des bêtises que des bonnes choses en se précipitant sans tester avant.
Pourquoi ce terme d'ingénierie, ce choix de terme d'ingénierie microbienne plutôt que de machinerie ou de machine microbienne ?
Je crois que c'est la même chose que pour la machinerie cellulaire. On plaque un programme sur le vivant qui renvoie à notre vision d'un fonctionnement optimal et qui peut-être justement nous prive d'une vision plus systémique et moins cybernétique, justement.
On intervient aussi sur la flore microbienne à l'aide de molécules chimiques qu'on fabrique et qui est peut-être c'est pas vraiment une machine, mais ce n'est pas non plus biologique. C'est une manière aussi d'intervenir, de jouer avec ça. C'est un début peut-être de machine dans le corps que de mettre du chimique.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Et moi, j'avais réfléchi à cette table ronde, je ne savais pas ce qu'on allait en dire, mais il y a une idée qui m'était venue, c'est que souvent, on commence en se disant, tiens, on va faire comme les animaux, ou on va faire comme la nature, puis on finit par faire autre chose. Bon, après tout, les avions, ils battent pas des ailes. Hein. Mais ça va plus loin. Au début, on se dit, tiens, on va se soigner avec des plantes, finalement, on se dit, oui, bah, le problème, c'est que quand je prends une feuille de sauge, bon, bien sûr, il y a des trucs qui me soignent, mais il y a des trucs qui me foutent la chiasse, hein, faut le dire. Donc, j'ai peut-être purifié et en finir avec une médication chimique. Je me demande si le lien du biologique et la machine, c'est pas que le biologique inspire. On parle souvent du biomimétisme, en fait. Et puis finalement, à un moment, on se dit, oui, mais enfin, avec le biologique, on contrôle pas tout. Parce que nous, on est très dans une logique, effectivement, analytique, cybernétique, de contrôle. Et on finit par extraire un truc plus contrôlable. Et finalement, la machine, c'est le refuge lié à l'incontrôlabilité ou la complexité, justement, du vivant. C'est un peu le refuge parce que c'est plus simple que d'utiliser du vivant.
Et puis après, c'est le côté docile, justement. Fiable, voilà.
Je crois qu'on pourrait encore partir sur de nombreux autres thèmes. Je crois le sujet est tellement vaste et tellement riche qu'on a déjà abordé un très grand nombre de thèmes, mais on pourrait en trouver encore beaucoup d'autres. Je tentais donc de donner la parole à la salle pour vous laisser choisir les sujets sur lesquels on pourrait partir.
En fait, j'ai une question particulière. En fait, c'est au sujet de machines biologiques, par exemple, je sais pas si j'ai un peu imaginé cela. En fait, les formes de vie, en fait, si c'est mécanique, si on dit machine biologique, est-ce que ce soit les formes de vie à base de carbone, de silicium, ou même plus bizarrement des formes de vie à base d'or, du composant chimique or avec AU, je crois le nom en fait pour raccourcir en fait. Est-ce que quelle que soit la composition de chimique de chaque forme de vie, y aura-t-il, ça va être comme une machine en fait, les mêmes processus comme machine en fait, quelle que soit la différence du composant chimique.
Je peux commencer, mais je suis sûre que je ne serai pas la seule à répondre. Je pense que ça dépend du niveau auquel on regarde. Qu'on peut toujours analyser quelque chose de vaste en le regardant à un niveau moléculaire, à un niveau un peu plus... ça dépend de l'échelle. Moi, il y a un bouquin que j'adore, c'est celui de Douglas Hofstadter, je ne sais pas si vous connaissez, en particulier son bouquin qui s'appelle « Gödel, Escher et Bach », où il parle très très bien de la différence de regard qu'on a sur des objets complexes selon le niveau auquel on les analyse. Et il a par exemple une métaphore très très intéressante où il compare le regard qu'on peut avoir sur la fourmi, ses stratégies, ses déplacements, et sur la fourmilière, objet global. Le comportement de la fourmi, c'est pas du tout la même chose que la synthèse qu'on peut faire de l'ensemble des comportements des fourmis individus. Il y a le changement d'échelle crée de la signification d'une autre nature. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ce que vous disiez, mais c'est un fragment.
En fait, plutôt, c'est la différence, selon moi, des différentes types de formes de vie et composants chimiques. Par exemple, j'ai voulu savoir si, quelle que soit une forme de vie, si elle est à base de silicium ou à base d'or, en fait, ou à base même d'argent, ben, en fait, c'est qu'il peut y avoir les mêmes comportements chimiques, les mêmes composants, en fait.
Marc-André, est-ce qu'on connaît des microbes qui sont basés sur autre chose que le fameux CHON?
La NASA est quand même spécialisée dans les coups de pub foireux, et récemment, donc, il y a eu cette histoire d'une bactérie qui aurait remplacé le phosphore par de l'arsenic. Alors ça fait la une de tous les journaux, une vie différente, avec une chimie différente, et puis finalement, bah voilà, c'est comme les nanobactéries que la NASA avait découvert dans les années 90, qui faisaient même pas la taille d'un composant cellulaire qu'on appelle le ribosome, donc ça pouvait pas être vivant, puisque c'était plus petit qu'un ribosome, mais ça avait fait la une de la presse, et puis ce qui n'a pas fait la une de la presse, c'est quand ça s'est dégonflé. On a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que de la vie au carbone. Alors, on peut imaginer d'autres vies.
Sur Terre, on a que ça.
Oui, le problème, c'est que moi, j'en connais pas d'autres. Enfin, j'ai peut-être pas lu les derniers bouquins de science-fiction. C'est ça, le problème. C'est que, et je suis tout à fait d'accord, il y en a peut-être ailleurs qui fonctionnent différemment. Le problème, c'est que comme on n'en a pas, eh ben, on est super emmerdé, parce qu'on ne sait pas si c'est qu'il n'y a que le carbone qui permet de faire ça, ou si c'est qu'il y en a d'autres, mais qu'on ne les a pas trouvés. Alors, il y a un roman de science-fiction qui, je me demande si c'est pas Bradbury qui écrit ça, il y a une vie au silicium, il écrit une vie au silicium sur Mars.
Il y a une très belle nouvelle d'une certaine Sylvie Lenné qui s'appelle Un amour de sable, qui...
Ah, mais ça va être celle-là, oui. Je suis mauvais, moi, en science-fiction, je retiens pas les titres. Et la bestiole fait des crottes de...
Sylvie, tu nous en diamant?
De silice, c'est ça?
Mes bestioles à moi ne font pas des crottes de silice, donc c'est pas de ma nouvelle.
Au lieu de faire du CO2 comme déchet, elle fait du SiO2, donc régulièrement, vous avez une pyramide de quartz. Et parce que le silicium, il a des propriétés proches du carbone, donc on peut se dire alors, c'est quoi les propriétés pour faire une vie telle qu'on l'entend? Faut s'axer sur une molécule, d'accord, qui à la fois fait des liens multiples, donc on dira chimiquement qu'il est tricoordonné, c'est pas mal, déjà tricoordonné, c'est bien. En dessous, ça commence à foirer. Et donc, qui fait des liens multiples, le carbone en fait 4, potentiellement. Et en même temps, qu'il soit faire ses liens et les défaire, ça coûte pas trop d'énergie. Bon, le silicium, ça commence à coûter un peu plus. Hein. Donc, c'est un peu moins bon. C'est la réversibilité, la maniabilité devient moindre. Donc, il y a des gens qui ont imaginé une vie au silicium. C'est chimiquement possible et pas observé.
L'avantage du carbone, c'est les liaisons chimiques. On en a davantage que pour d'autres. Voilà.
Autre question ?
Oui, bonjour. Au vu du titre, La machine biologique, je me posais la question, j'ai lu quelques articles comme quoi on irait vers le bionique, c'est-à-dire un numérique où on intégrerait peut-être des protéines ou des bactéries, une fusion électronique biologique. Compte tenu du fait que le numérique est un secteur extrêmement polluant, énergivore, et que si on continue dans cette société, on va accélérer l'extinction de la biodiversité, comme vous l'avez justement souligné, est-ce que cette machine biologique, donc une fusion bionique, est possible ?
Question ouverte et difficile. Est-ce que des machines bioniques sont possibles ?
Moi, je pense vraiment qu'il faut imaginer... Hein, il faut imaginer ce processus où au début on importe une solution biologique puis on va trouver un truc plus contrôlable. Rappelez-vous, les voitures ont été tirées par des chevaux et à un moment finalement pour la traction on est passé à un truc qui n'était plus un cheval. Alors d'ailleurs, en termes d'incidence sur l'environnement, on sait les conséquences que l'on sait, donc c'est pas forcément un progrès. Je suis pas quelqu'un qui croit au progrès, mais ce que je pense, c'est que dans notre démarche, souvent on remplace ce qu'on peut prendre dans la nature par un truc que l'on usine à la fin exacte, précise de ce que l'on veut voir accomplir.
On utilisait le cheval également. Il y avait d'autres nuisances qui étaient liées à l'utilisation hippomobile. Les immeubles à New York où l'on montait les marches d'escalier, c'était simplement parce que l'on mettait le fumier sur les bas-côtés et qu'il ne fallait pas rentrer entre deux tas de fumier. Donc on grimpait au-dessus. Donc il y avait déjà une architecture qui était faite en fonction du déplacement. Avec le cheval.
Moi, je pensais à un truc, c'est que parmi les premières machines biologiques qu'on serait sans doute capable d'inventer, il y a des machines à polliniser qui remplaceraient les abeilles. Si un jour on se met à aller chercher des matériaux fossiles qui sont en train de, dont les ressources sont en train de disparaître, qu'on fabriquera dans des usines qui continueront à élever le taux de carbone de l'atmosphère, tout ça pour faire ce que faisaient très bien les abeilles dans un processus totalement écologique. Moi, ce jour-là, je me tire des plombs. Hein. Oui, je mets des pollinisateurs au rythme où les abeilles sont en train de disparaître, ça va être un des prochains défis de la science.
Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit la dispersion des abeilles, c'est pas un problème, on fera des trucs qui volent, on fera des
Mais c'est terrifiant. Mais ça, ça va continuer à crever encore 10 fois plus vite. Donc, on a tous les mêmes inquiétudes. Hein.
Et pour en venir au bionique, c'est vrai qu'il commence à y avoir... Alors moi, je connais pas du tout ça, et j'aurais dû réviser peut-être avant de venir. Il commence à y avoir des ordinateurs ADN, des choses comme ça, c'est-à-dire des trucs qui font... Enfin, il y a des processeurs qui utilisent des molécules biologiques. Et puis, il y a aussi un truc qui me paraît très très puissant, et qui utilise l'ADN aussi, c'est des systèmes de résolution d'algorithmes ou de calculs qui utilisent des systèmes de sélection dans des ADN ou des ARN qui se répliquent, et en fonction de qui gagne, on voit quelle est la meilleure solution. Ça, c'est des perspectives extrêmement intéressantes. Mais à mon avis, quand je vois comment c'est chiant de... Ça on le fait dans mon labo, hein, comment c'est chiant de répliquer de l'ADN, et qu'est-ce que ça coûte ? On attend désespérément que, à partir de l'ADN de la nature, on passe immédiatement à notre molécule synthétique qui a les mêmes propriétés pour faire le boulot, parce que ça enrichit beaucoup les boîtes de produits chimiques. De travailler sur l'ADN, hein, parce que c'est pas très confortable.
Peut-être que la première chose qu'on fera, ce sera du beefsteak, hein, la viande, tout simplement, sans utiliser des supports animaux. Encore que je crois qu'à l'heure actuelle, ça coûte encore très très cher de fabriquer un kilo de beefsteak. Hein. Bien plus cher encore que ne coûte le fait de faire vivre une vache.
Et ça manque de goût.
Ça, j'ai pas essayé.
Ce soir, on a de la nourriture qui sera peut-être faite à base de tes beefsteaks prédictifs, là.
Et un dessert qui est le soleil vert pour les amateurs. D'autres questions ? Oui, le micro ne circule plus ?
C'est moi qui l'avais, okay. C'est moi qui l'avais en fait. Pour revenir à ce qu'on disait à propos de l'iPhone au début, donc Marc-André Solos disait qu'il ne remplaçait aucune de nos fonctions organiques actuellement. Puis Sylvie a dit que l'iPhone lui permettait de ne pas se perdre. Donc la question que je me posais, c'est si réfléchir à la machine biologique, ce n'était pas réfléchir à comment est-ce que notre biologie, à nous, allait être modifiée du fait de l'interaction avec la machine. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que les jeunes qui travaillent tout le temps avec leur iPhone, Internet, ne réfléchissent plus de la même façon, n'arrivent plus à se concentrer de la même façon, ne gèrent plus leur mémoire de la même façon. Est-ce que ce n'est pas notre cerveau, en fait, qui, de par l'interaction, va être modifié, donc la machine, quelque part, va quand même s'insérer en nous de cette façon-là.
Ça, c'est la question à laquelle je voulais... C'est le truc dont je voulais pas parler tout à l'heure. Moi, je peux raconter ce qui se passe avec mes étudiants. J'ai de la chance, j'ai des étudiants de master hyper motivés, qui savent tout à fait pourquoi ils viennent en cours, qui sont pas du tout là par hasard et qui sont très désireux d'apprendre et de travailler. Je leur fais une séance de cours... Ça se passe extrêmement bien. Ils sont attentifs. Ils me posent des questions. Ils comprennent ce qu'ils sont censés acquérir. Hein, et ils le font. Et on se revoit la semaine d'après. Et la semaine d'après, ils sont dans les mêmes dispositions, plein d'enthousiasme et de bonne humeur. Ils ont complètement oublié tout ce qu'ils avaient appris la semaine d'avant. Et ils en sont conscients. Et ils me disent, madame, comment on peut faire? On n'imprime pas. Et j'ai pas de réponse à ça. Parce que je pense que j'ai toujours leur disponibilité mentale, j'ai toujours leur investissement en cours, j'ai toujours leur intérêt, mais ils ont pris l'habitude de déléguer à la machine la fonction mémoire au sens apprendre des définitions, des concepts. Mais ce qui est embêtant, c'est que en abandonnant ça, ils ont abandonné aussi la compétence procédural, je ne sais pas si je jargonne, mais comme je fais des cours qui tirent vers l'informatique, ça reste cohérent. Ils savent faire des trucs pendant le temps où on les fait ensemble. La semaine d'après, ils ont oublié comment. Mais si je leur réexplique, ils vont très bien comprendre la deuxième fois aussi.
Moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, c'est ils n'impriment pas.
Ils n'impriment pas. C'est eux qui me le disent comme ça. Et c'est eux qui me le disent de cette façon-là. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. Madame, on n'imprime pas, comment on peut faire? Et je suis très ennuyée pour leur dire quoi faire. Je sais pas.
Il y avait du temps des Grecs, il y a un entraînement à la mémoire. On connaît quelques méthodes aussi. Enfin, l'exemple de la maison où chaque pièce, pour pouvoir cultiver sa mémoire. Il y a un travail qui se fait, que les acteurs font encore. Et qui On l'avait regretté à l'époque, lorsque l'écriture et l'imprimerie étaient arrivées, de dire que ce travail de mémoire était à peu près abandonné parce qu'on allait se référer à l'ouvrage qui contenait la réponse. Donc il y avait déjà une modification dans la manière d'utiliser son cerveau qui était liée à une première technologie.
Mais ça, c'est très intéressant. Ce qui se cache derrière, c'est que la technologie nous modifie. On a peut-être trop peur, comme tu le suggères, on a peut-être trop peur des fois de ça. Peut-être que demain, la compétence n'est pas de savoir, parce que le savoir, il est interrogeable immédiatement. Il est de pouvoir manipuler. Alors, on en est d'ailleurs loin, d'ailleurs, quand on voit la naïveté que certains ont face à Internet, on en est très loin. Mais demain, le vrai problème sera de savoir manipuler les données, trouver le sens des données, parce que ce que ne font pas les machines d'aujourd'hui. Je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde a été sidéré de voir que dans certaines écoles américaines, on voulait arrêter d'apprendre à écrire pour que, simplement, les gamins apprennent à taper. Et tout le monde a dit, on a presque entendu, moi je l'entendais, hein, c'est contre nature. Mais le crayon, c'est naturel. C'est quoi ce truc de prendre un morceau qui fait des taches en plus ? Enfin, surtout que, bon, maintenant c'est à peu près réglé, hein, mais ça n'a pas toujours été réglé, cette histoire-là. Un truc qui fait des taches, quoi, pour matérialiser les... Enfin, c'est ça. Quelqu'un a dû dire un jour, cette histoire d'écrire, c'est contre nature par rapport à une mémoire orale. Donc, il faut reconnaître que nos usages doivent évoluer comme ils ont évolué. Et c'est peut-être ça. Et nous, on est démunis par rapport à ça, parce que d'une part, ces gens-là ne fonctionnent pas comme nous, même s'ils sont de l'autre côté dans l'amphi. Ça, je confirme, ils ne fonctionnent pas comme nous. Et en plus, on est infoutus dans ce monde moderne de leur dire comment fonctionner. Parce que ce n'est pas nos repères. Et comment travailler avec, justement, plus la mémoire, mais juste la capacité de manipuler l'information qui revient en temps réel. Ça, on ne sait pas faire, nous, donc on ne peut même pas les aider. Donc, c'est un peu désespérant, des fois, pour un enseignant, ça.
Mais, je ne sais pas, pour moi, il y a quand même deux types de mémoire. Il y a la mémoire encyclopédique qu'on accumule. Celle-là, on peut très bien la déléguer. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et puis, ce que j'appelle la mémoire procédurale, c'est comment on traite... Oui, et ça, je suis désolée, mais on ne le trouve pas si facilement. Si on ne sait pas faire, on peut consulter des pages et des pages, on ne saura toujours pas comment faire.
Oui, tous les enseignants conseillent à leurs étudiants de faire des gammes, de faire des exercices, et c'est une façon directe de travailler ce que tu appelles cette mémoire procédurale. Une autre question ?
Rapidement, je redonne la parole. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait de déléguer à la machine, parce que ce n'est pas très résilient. Si on a un blackout, si on a une pénurie d'énergie, et qu'on ne sait plus avoir cette mémoire procédurale, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais j'aborde le sujet, parce que dans les colloques de numérique, de science-fiction, on ne parle jamais du risque de pénurie d'énergie, du risque de blackout, de tout ce qui est non résilient et qui est en train de se mettre en place. Donc, je vois que Sylvie Lenné je laisse répondre.
Moi, je me dis depuis longtemps, si un jour on n'a plus Internet, en deux jours, tout est paralysé, hein. Moi, dans mon travail, si j'ai plus Internet, je peux plus rien faire. Oui. Je peux même pas consulter mon emploi du temps.
Ça, c'est vrai, mais vous coupez les routes, Versailles s'écroule. Ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été l'intégration culturelle a toujours poussé à plus de dépendance, plus d'interconnexion, et donc chaque partie est plus vulnérable sans les autres. On peut se poser la question de savoir si c'est une bonne direction. Ça, c'est un très très bon point. Mais ce n'est que la suite de l'histoire, en fait.
Oui, c'est une question pour Sylvie. Vous disiez que l'intelligence, la conscience des machines, c'est quelque chose qui pouvait tout d'un coup surgir à notre corps défendant.
J'ai dit ça, moi ? Ah non, c'était une hypothèse d'auteur.
Une hypothèse de la science-fiction. Oui. Est-ce que dans l'état actuel des travaux réels, quoi, est-ce que c'est une hypothèse plausible ou complètement improbable ?
Pour moi, elle est complètement improbable. Après, on ne peut avoir par rapport à ça que des attitudes quasi religieuses. Hein. On y croit ou on n'y croit pas, et c'est difficile d'argumenter, puisqu'il s'agit par définition de quelque chose. Déjà, si la conscience naissait dans une machine, il y a une chose qui est assez troublante, c'est que comment arriverait-on à admettre que cette conscience est née ? Comment vous faites pour admettre que les gens autour de vous ont réellement conscience, qu'ils ont des consciences ? Il y a des êtres humains qui sont atteints de troubles mentaux et qui considèrent que tous les gens qui les entourent sont des marionnettes artificielles qui... Bon, ça s'appelle de la paranoïa, et il y a des différents degrés et différents types de troubles. Mais déjà, accepter de reconnaître que l'être humain en face de vous a une conscience aussi significative que celle que vous avez vous-même, c'est pas un processus évident. Le reconnaître dans une machine... Ben, on a eu déjà des tables rondes ici où on a parlé du test de Turing et un tas de questions comme ça. Ça résout pas tout. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je n'imagine pas que la conscience puisse naître en dehors d'un substrat biologique, parce qu'il faut un substrat biologique pour qu'il y ait des envies, des désirs et des pulsions. Et pour moi, la vie, ça naît avec ça, avec la souffrance, avec la séparation entre moi et le reste du monde. Je suis quelque chose de spécifique, je ne suis pas juste un objet du monde, je suis moi. Pour arriver à l'idée je suis moi, il faut qu'il y ait une frontière et une rupture. Et pour un humain, ça, pour un être biologique, ça s'appelle une naissance. Et une naissance, c'est une séparation. Et il faut des envies, des sens, des pulsions, des besoins. Et ça, c'est biologique. Une machine ne souffre pas si sa batterie se vide.
Pas encore, peut-être. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi parce qu'on avait déjà discuté dans un colloque à Peresque et depuis je travaille aussi dessus, comme tu sais. Il y a quand même une machine qui commence à dire attention, ma batterie, elle commence à baisser. La petite lumière, elle devient rose, elle devient rouge.
Mais elle a pas mal.
Non, elle a pas encore mal, mais elle commence à s'inquiéter et elle le fait savoir qu'elle a besoin d'énergie. Donc il y a peut-être un début là. Vous savez que d'ailleurs pour les Tamagotchi et tous ces petits jeux, les Japonais ont un grand respect pour la machine et ont des cérémonies pour les Tamagotchi décédés. Il y a cette forme de conscience. Alors peut-être que si on leur donne des occasions d'abord de se stresser, d'avoir des alarmes d'urgence, le stress qui pourrait conduire à une certaine forme de douleur, d'atténuation, on pourrait peut-être commencer à donner un semblant d'émotion à une machine. Par contre, si jamais elle devenait consciente, je crois que, bon, on ne saurait pas la reconnaître, mais je crois qu'elle-même ne nous reconnaîtrait pas. Elle serait tellement supérieure de par sa puissance de calcul qu'elle n'aurait pas plus d'intérêt pour nous que nous n'en avons pour les fourmis.
On serait trop différents, en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'elle serait supérieure, pas avant un certain temps.
Différente.
Je crois qu'on va en rester sur cette notion de respect comme dernier mot pour cette séance. Je crois que c'est très adapté. Je voudrais vous remercier tous d'être venus, remercier nos panélistes, et puis vous rappeler qu'ils seront en dédicace pour la plupart dans les minutes qui viennent à la librairie. Donc.